CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour, bonjour tout le monde. Ici Denis Marion. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je relève un nouveau défi. Un défi que j'ai envie de relever avec votre appui, puis avec celui des personnes qui vont accepter de participer à l'émission. Je remercie d'ailleurs l'équipe de CJSO là, qui me fait confiance aujourd'hui pour animer cette émission du jeudi midi. L'émission va sûrement évoluer avec le temps parce que je vais apprendre tranquillement à faire cette émission avec vous. Mais ce qu'on vise, c'est approfondir ensemble des questions d'actualité. Peut-être aller un petit peu plus loin que l'actualité quotidienne pour comprendre le sens de certaines choses qui nous touchent, qui nous affectent, bien sûr, dans la région. Une région où il y a des gens extraordinaires, des ressources, des personnes qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience et avec lesquelles convient de jaser, de discuter, d'échanger, de débattre aussi. Donc, profitons de cette richesse-là dans la région pour aller plus loin dans l'actualité. Alors, mes invités aujourd'hui, Gilles Gauvreau, on va parler ensemble d'inflation puis de situation économique. Sylvie Pouliot, la directrice générale de la SADC, on va poursuivre avec elle un petit peu sur l'économie dans la région, puis peut-être aborder le thème de l'économie circulaire. Et avec Audrey Comtois de la MRC, on va parler de la conservation des milieux naturels en troisième segment.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Les plus gros succès dans la grande région de Sorel-Tracy, ils sont ici. CJSO 101.7.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on va amorcer notre émission avec Gilles Gauvreau, qui est un résident de Sainte-Anne-de-Sorel, donc quelqu'un de la région, qui est un économiste, qui a été un coopérant international, qui a travaillé avec l'ACDI, qui a eu des mandats du PNUD, des Nations Unies, de la Banque mondiale, donc quelqu'un qui a travaillé en particulier en Afrique et qui, comme je le disais, est un économiste de formation. Dans les façons d'appeler les gens aujourd'hui, on dirait que c'est un travailleur expérimenté. Donc, c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience à partager avec nous. Bienvenue, Gilles.
Ça me fait plaisir.
Les gens de la région ont pu constater dans leur quotidien, que ce soit à l'épicerie ou lorsqu'ils payent leur hypothèque, que l'inflation a beaucoup bougé, que les taux d'intérêt ont également augmenté en 2022. On avait eu une période de relative stabilité d'une vingtaine d'années, là, autant dans le niveau d'inflation annuel que dans les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui explique la situation actuelle?
Il faut le dire, là, on a vécu un choc hors du commun, très particulier. C'est peut-être la première fois qu'on a un choc simultané du côté de l'offre et de la demande dans l'économie. le système de production et surtout d'approvisionnement, la chaîne a déraillé quand ils ont tout fermé.
Donc, l'impact de la pandémie, là?
Oui, on la voyait venir, c'était commencé, mais l'appareil de production a dû quasiment fermer, sauf des secteurs jugés essentiels. Mais arrêter la production dans un système qui est très performant, qui fonctionne selon les critères les plus sérieux là, de productivité, on ne redémarre pas ça facilement. Ça, il fallait le prévoir que ça allait être long à revenir de ce côté-là.
Et donc, là, on parle de quand on cherche des produits dans le magasin, là, d'où ça vient.
Aussi bien à l'épicerie que pour la voiture, que pour
qu'à la quincaillerie,
pour le bois.
Hein, oui, on l'a vécu, oui.
On n'arrête pas une chaîne de production comme ça, parce que la chaîne de production, elle s'était détraquée. En même temps, et c'est ça qui est spécial dans ce cas-ci, en même temps, du fait que l'appareil de production bloque, bien évidemment, les ouvriers se retrouvent sans travail. Le mode de vie a complètement changé.
Et le mode de vie est donc les habitudes de consommation, la façon dont on consomme.
Y incluant les modes de consommation, on achetait ce qu'on trouvait. Il y avait des difficultés d'approvisionnement de ce côté-là. Hein?
On a vécu les tablettes, à un moment donné, vides de farine, exemple.
Oui. Et il en reste encore des séquelles de ça. Il y a certains produits qu'on ne trouve pas ou qu'on trouve pendant 2-3 semaines sur les tablettes des épiceries. Et ça revient, ça repart.
Et quand on ne les trouve pas, ça veut dire qu'éventuellement, ben, si on veut les trouver, on va devoir payer un peu plus cher pour mettre la main dessus.
Ça veut dire ça. Souvent, oui. Mais de ce côté-là, les anglophones ont sorti 3 mots pour décrire des situations ou des réactions légèrement différentes. Bon, il y a l'inflation standard là, qu'on connaît, une augmentation qui est basée sur l'augmentation des intrants. On a parlé de shrinkflation, de réduflation. Donc, il y en a qui se sont ajustés à mi-chemin, ils ont diminué un peu les quantités.
Dans la boîte, par exemple.
Dans la boîte, les boîtes de céréales, ouais. Il manque un pouce. Là. Les biscuits, il y en a qui ont foulé dangereux, d'où le mot shrink. Là. Et on a même ajouté, et ça, je l'ai vu dans le Globe and Mail, même donc les journaux à caractère financier économique l'utilisent. Greedflation. Là, des gens qui ont simplement et purement profité de l'occasion pour monter les prix même et au-delà.
Au-delà de la réalité. Qu'est-ce que la réalité?
C'était juste par avidité, par l'appât du gain. Là. Donc ça, ils ont appelé ça greed, parce que greed, c'est l'avidité. Là. Greedflation. Donc, il y en a eu de tous les types. Cet arrêt soudain, imprévu, les inventaires étaient au plus bas. De toute façon, c'est la façon de gérer aujourd'hui les inventaires, de les maintenir au plus bas. Fait qu'on s'est fait prendre à découvert. Et ça a duré un certain temps. Au début, c'était clair, c'était fermé, etc. On rouvre tranquillement. À un moment donné, il faut fermer, etc. Donc, les va-et-vient, ça n'a pas facilité la situation dans la perspective de reprendre les flux de production des biens et services et des acheminer, parce que il y a la production, mais il y a aussi la livraison au point de vente. Et on ne peut pas oublier les centaines de bateaux qui étaient parqués devant les ports sur la côte ouest américaine, en Europe. Eux avaient de la difficulté à avoir une place pour stationner, puis en même temps, il manquait de main-d'œuvre partout, hein, faut pas l'oublier. Personnellement, je considère qu'il relève quasiment du miracle qu'on soit où on est aujourd'hui en termes de
malgré
production.
Tout, là.
Malgré tout, l'emploi. Là, on se retrouve dans une situation. Il faut bien voir, on est dans une situation aujourd'hui où les taux de chômage au Canada notamment, et au Québec encore plus, sont inférieurs à ce qu'ils ont été depuis 20 ans, 30 ans.
Tout à fait.
Depuis que j'ai fait mon cours jusqu'à 2019 jusqu'à l'avant-pandémie, si on m'avait dit qu'on aurait un taux de chômage de 3,5 au Québec, j'aurais dit que ça, c'était de la science-fiction.
Et là, on s'entend, là, un taux de chômage de 3,5, ça veut dire à toute fin utile qu'il n'y en a pas de chômage, ça parce que généralement, c'est des gens qui changent d'emploi ou des choses comme ça. Là.
Un taux de chômage de 4 % était considéré comme le plein emploi parce que ce sont des gens qui...
transitent.
Ouais, c'est des frictions, c'est des gens qui changent d'emploi, qui déménagent ailleurs. C'est assez spectaculaire. Il faut cependant ne jamais oublier que le taux peut-être encore plus important, c'est le taux de participation de la main-d'œuvre. Donc, de la tranche des 18 à 65 ans, et au Québec, c'est assez fort, on est en haut de 65-68% de taux de participation.
Et avec un taux de participation extrêmement élevé chez les femmes grâce aux politiques familiales du Québec.
Exactement, oui, ça, les CPE ont participé à ça. Et ça, c'est important. Alors que le taux de chômage, bien, c'est... De cette même tranche d'âge-là, ce sont les gens qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas, sont définis comme étant chômeurs. Mais ce n'est plus le 100 % de la tranche d'âge. Là. Ceux qui ont débarqué.
On se souvient, toi et moi, des années 80, on est loin de là. Là.
Ça n'a rien à voir.
L'effet à ce moment-là? Pourquoi les taux d'hypothèque, eux autres, ont augmenté parallèlement?
Les taux d'intérêt
sur les hypothèques, plutôt?
Oui, parce que c'est bon. Quand l'inflation est apparue, il ne faut pas oublier qu'on vit encore dans une idéologie monétariste. Bon, en tout cas, c'est peut-être la fin du monétarisme. Il faut l'hydre à combattre, le méchant à vaincre à tout prix, c'est l'inflation, parce que l'argent perd sa valeur. Donc,
comme c'est l'argent qui est important.
C'est ça. Donc, les banques centrales, parce que ce qu'on dit pour le moment, c'est ça s'applique à peu près universellement. Hein, c'est vrai dans tous les
pays. Pas que chez nous, là.
Dans tous les continents. Hein. Donc, c'était très clair aussitôt qu'en début 2022 que les taux d'intérêt allaient augmenter. Quelqu'un m'a raconté hier, qui travaille dans les marchés financiers, il y a eu une vague d'emprunts de toute nature, de financement d'entreprises en fin 2011 et au début de l'année 2012 parce qu'on savait que les taux d'intérêt allaient augmenter.
2021-22?
Fin 2021, c'est déjà... Parce que les taux d'inflation avaient déjà augmenté. Hein, donc, que les taux d'intérêt allaient monter. Là aussi, ce qui est particulier, c'est que les taux d'intérêt... Habituellement, ils montent dans un escalier assez...
Ah ouais, puis là, on a vu tout à coup l'ascenseur.
Mais là, entre mars 22 et aujourd'hui, les dernières statistiques qu'on a, je pense, c'est pour novembre, le taux d'intérêt de base, celui de la Banque centrale ici au Canada, il est passé de 0,25% à 4,25. Et on s'attend... à ce qui est probablement une augmentation prochaine là, de 0,25% et peut-être une autre en mars d'un quart d'un pour cent. Assez étonnamment, c'est la vigueur du marché du travail qui fait que les gens dans le milieu financier, ceux qui combattent l'inflation, les chevaliers de la bataille contre l'inflation, là, avec raison, cette fois-là, ils ont tellement peur de perdre le contrôle comme ils l'ont perdu en 1980 quand on s'est retrouvé avec des taux d'intérêt de 18 %. Ouais. Il faut tuer l'hydre le plus rapidement possible. Donc, dès qu'ils voient que le marché du travail continue de s'améliorer, les dernières statistiques de la semaine dernière là, dans les journaux financiers, ce qu'on a dit, là, c'est que là, il va falloir que la Banque centrale intervienne.
Ce matin, il y avait des articles qui indiquaient que le taux d'inflation avait l'air de diminuer un petit peu aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Est-ce que la situation puis le poids que ça représente pour les gens là, dans le quotidien, est-ce que ça va rester ou s'il y a un peu d'espoir qu'on peut avoir? Là? On sait qu'on est devant une boule de cristal. Là. On est conscient de ça, là.
On a remarqué effectivement qu'au Canada, aux États-Unis, je crois penser aussi que c'est la même chose en Europe, les taux d'inflation diminuent, mais diminuent lentement.
Peu.
C'est des points de pourcentage à chaque fois, ce qu'ils ont annoncé ce matin, ce qu'ils ont annoncé dernièrement pour le Canada. Bon, par contre, il y a des côtés encourageants. Les prix des matières premières, certaines matières premières, comme le pétrole a baissé de façon significative. Le bois baisse un peu. Le gaz naturel a baissé. Il y a certains produits agricoles qui ont baissé. Mais tout ça, ce sont des intrants dans la chaîne de production. Et ça, c'est prometteur. Ça, c'est prometteur. Il faut le mentionner aussi, les rémunérations augmentent.
Les salaires,
mais j'ai utilisé rémunération là, parce que ça peut être toutes sortes de revenus en plus du salaire. Hein. Ça augmente. On en a parlé de même de 5,7% la dernière fois. Il n'y a personne qui va avoir 5,7%, il faut bien s'entendre, là. C'est des moyennes, parce qu'il y en a dans certains secteurs qui ont eu des 10, des 12 % là-bas, des rattrapages. Donc, c'est une moyenne. Et,
Gilles, ouais. Je peux pas m'empêcher de faire une référence à ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, ça demeure la première économie mondiale.
Ouais.
C'est un peu rock'n'roll aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce que ça a un impact?
Oui, ça a un impact. Les contestations, le bois d'œuvre, ça continue, ça reprend. Et là, ben, il y a le lait qui devient un produit contentieux. Quelqu'un disait récemment, le lait, c'est devenu le bois d'œuvre pour d'autres groupes de pression aux États-Unis. Ils lâcheront pas.
Et ça va avoir un impact sur nous. Ça va avoir un impact autant sur les producteurs de lait que pour les consommateurs.
Ça ne peut pas ne pas avoir d'intérêt. Dans le monde où on est ici, c'est clair. Là. C'est clair. L'autre chose qui peut avoir de l'impact, c'est que c'est l'arrivée des républicains dans la Chambre. Et comment dire?
Une arrivée vraiment assez douloureuse, là, quand même. On l'a vu depuis une semaine. Là, ça ne se fait pas naturellement, leur arrivée.
Il faut couper tous les déficits, il faut bloquer l'immigration, il faut casser la cabane et tout recommencer. Mais c'est pas des gens... Il y en a qui sont fins, qui sont intelligents, mais je dirais qu'ils ne sont pas compétents. Tu sais, là, de dire qu'ils vont régler le problème de l'énergie alors qu'ils ne connaissent rien à rien en énergie, ça n'aide pas, ça.
C'est très encourageant comme jugement, je trouve, que de considérer que ceux qui sont au pouvoir, entre guillemets, là, à la Chambre des représentants, ne sont pas compétents alors qu'on vit des crises une après l'autre.
Oui, oui.
Puis il faut aussi dire, la pandémie, elle n'est pas terminée. Là. Encore ce matin, on nous annonçait que l'arrivée au Québec là, d'un nouveau variant qui pourrait être très, très contagieux. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'éléments devant nous. 2023, on va se laisser à 2023. 2023 sera peut-être pas une année très tranquille.
De transition. Si on est chanceux, on va au moins en rester là. Mais on le sait, les dernières années sont claires là-dessus. Des signes noirs, là, tu sais, tous les signes sont blancs, mais sauf que quand il arrive quelqu'un de quelque chose d'extraordinaire, on est pris par surprise, mais il va en avoir d'autres de ça.
Bon, ben on va voir tout de suite après avec Sylvie Pouliot. On va parler de la région maintenant. On va parler un petit peu de ce que ça peut signifier dans la région. Gilles Gauvreau, un énorme merci pour cette première partie.
Ça m'a fait plaisir, Denis.
Chez Meubles André-Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André-Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site Web.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné. Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Tête première est une présentation de Lucier. Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on poursuit. On a plongé d'un tremplin quand même assez haut. Ça nous a permis d'avoir une bonne perspective de la situation comme elle est aujourd'hui sur la planète, mais est-ce que ça a comme impact dans le quotidien pour les gens? J'ai avec moi Sylvie Pouliot, qui est la directrice générale de la SADC, la Société d'aide au développement des collectivités, de Pierre de Sorel. Sylvie est à son poste depuis une vingtaine d'années. On se connaît depuis à peu près ce moment-là. Donc, je suis vraiment très content de l'accueillir. Merci, Sylvie, de participer à l'émission aujourd'hui.
Merci de m'accueillir aussi. C'est un plaisir, Denis.
On amorce une année avec les enjeux que Gilles Gauvreau évoquait tout à l'heure, que ce soit la question de la pénurie de la main-d'œuvre, qui est un sujet qui a été abordé quand même de façon assez importante au cours de la dernière année, les dérèglements climatiques qui posent des gros enjeux autant aux travailleurs, aux entreprises, mais aussi aux organismes de développement comme la SADC ou comme Développement économique Pierre de Sorel. Là, on commence 2023. On se positionne comment, nous autres, dans tout ça comme région? Là? Si je te demandais de faire la liste des atouts, ce qui fait que nous, on est bien positionnés pour amorcer 2023, malgré le contexte dont on vient de parler. Là.
Mais c'est vrai qu'on est super bien positionnés. Nos carnets de commandes sont à plein dans nos entreprises manufacturières. On voit les atouts d'innovation faire des petits. Je regarde même l'innovation économique, mais l'innovation aussi qui touche tout ce qu'on appelle l'économie circulaire. Hein, de plus en plus, on entend parler de l'économie circulaire, puis qu'est-ce que ça mange, ça, un peu en hiver? Bien, pour nous, en développement économique, si ça crée des bénéfices, si ça crée plus de valeur économique, et particulièrement, l'atout de plus de l'économie circulaire, c'est l'innovation. Et en plus, on touche à des valeurs environnementales. Alors,
on va essayer d'aller plus loin là-dessus, OK? Oui. Parce que là, c'est sûr que c'est des mots qui peuvent paraître un peu complexes, là. Si on parle d'économie circulaire, c'est évident que je vais te demander, Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises très concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises éventuellement, mais définissons ce que... Quand la SADC dit « nous, on veut miser sur le développement de l'économie circulaire », à quoi vous faites référence?
Ça veut dire... Nous, qu'est-ce qu'on cherche avant tout, c'est les impacts positifs. Quand tu as plus et que tu crées plus de valeur dans tes poches, c'est payant. Puis l'économie circulaire, c'est ça que ça nous amène. Ça fait plus de revenus, moins de dépenses.
Pour les entreprises, par exemple. Donc, éventuellement, pour la région au complet.
Absolument. Et c'est pour ça qu'on est embarqué là-dedans. Puis même la grande entreprise, on pense à Rio Tinto. On a vu cet automne qu'ils ont fait un investissement énorme, majeur. Grâce au rejet, il faut le faire, là, hein? Créer de la valeur avec des déchets, bien là, on vient de créer un nouveau minéraux qui s'appelle critique, qui s'appelle le scandium. On faisait, à cause qu'on fait de la transformation d'ilménite, on fait du fer, du titane, mais on s'est rendu compte qu'on avait une autre valeur dans le déchet, dans les résidus, qui s'appelle le scandium. Or, le scandium, c'est un élément critique pour aller dans tous les appareils électroniques, aérospatiales, impression 3D. Et ça, aujourd'hui, Rio Tinto, la grande entreprise dans notre région, un fleuron mondial, a compris ça et s'est mis à mettre sur pied une usine pilote, à investir. Et là, on attend qu'ils quadruplent leur production. Donc, quand on s'occupe d'économie circulaire, ça veut dire qu'on essaie de maximiser tout ce qui rentre, tout ce qui sort, puis on essaie de faire au mieux, de maximiser, optimiser. Donc, imaginez, là, on fait des revenus avec des déchets.
C'est ce que je comprends. Là. Je prends mon sac de vidange, puis au lieu de simplement le mettre au chemin, là, je risque de faire de l'argent avec mes vidanges. Là.
Oui, puis je caractérise, puis je regarde toutes les opportunités. Et puis là, ça veut dire, donc, on a des pans d'ilménite de rejet, et puis là, sans extraire plus, sans transformer plus, on invente grâce au centre de recherche. Moi, le centre de recherche d'innovation là, de Rio Tinto, là, c'est un moteur. pour le développement et les critères d'environnement font partie de leur décision d'investissement. Bon. Ce n'est pas juste pour la planète, là, c'est je sais que je peux faire de l'argent pour que... Excusez, mais vous me partez là-dessus, là, mais...
Non, non, c'est bon, c'est pour ça qu'on t'invite.
Oui, mais on n'avait jamais vu, depuis Diefenbaker, on n'a pas vu un premier ministre débarquer dans la région. Hein, M. Trudeau est rentré dans la région à l'automne. On n'avait jamais vu un directeur PDG de Rio Tinto débarquer dans la région. Grâce à quoi? Au Centre de recherche d'innovation de Rio Tinto pour justement annoncer des investissements colossaux dans une vision d'économie circulaire.
Puis, Sylvie, disons-le, tout ce qui est de métallurgie, c'est notre première industrie dans la région. C'est notre premier créateur de valeur, notre premier créateur de richesse. C'est aussi le premier employeur, si je ne me trompe
pas. Absolument.
Et donc, évidemment, ce que tu dis là, c'est Rio Tinto qui, d'une part, décide de travailler ses déchets, entre guillemets, et en plus investit pour décarboner.
Oui.
Donne l'exemple
Absolument.
Aussi. Puis on parle de près de 800 millions de dollars canadiens.
Oui,
exactement.
Oui.
Et donc, ça, c'est majeur, tout ça, et ce sera un levier. Et c'est aussi un signal pour la région, parce que Rio Tinto nous indique ce vers quoi on a intérêt à travailler.
Absolument, absolument. Et puis là, il faut optimiser. On a des enjeux de main-d'œuvre. Présentement, nos carnets de commandes sont à plein. Dans nos entreprises. Nos entreprises ne peuvent pas répondre à la demande à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on manque de main-d'œuvre. Donc, il va falloir agrandir par en dedans. Hein? Agrandir par en dedans, ça veut dire faire mieux avec qu'est-ce qu'on a. Et ça va être d'automatiser, ça va être de trouver des solutions. Présentement, on a plusieurs entreprises qui en ont un cheminement de faire en sorte d'avoir un appareil de ressources humaines beaucoup plus qualifié. Alors, hier, on était des producteurs. Tantôt, on va devenir vraiment des développeurs. Et là, on va regarder le bien-être. Les nouvelles valeurs des entreprises, on parle de développement, de faire plus d'argent, mais maintenant, c'est aussi la bienveillance. Et ça, on n'avait jamais entendu parler de ça, des entrepreneurs qui avaient ce mot de bienveillance. Quand on a vu la grande entreprise Bell arriver dans la région et que les premières valeurs étaient des valeurs de développement durable, c'est-à-dire comment être bienveillant en face pour nous, mais aussi pour notre communauté, bien, c'est ça les nouvelles valeurs. Puis ça, c'est des fondamentaux d'économie circulaire.
Sylvie, Rio Tinto ne fonctionne pas en vase clos. Elle est en lien avec un nombre impressionnant de fournisseurs puis de clients.
Oui.
Donc, quand Rio Tinto prend des décisions comme celles dont tu parles, ça a un impact, évidemment, en amont puis en aval de leur chaîne de production. Là, on parle d'une grosse entreprise, une multinationale. Oui. C'est une entreprise qui évidemment, agit à un niveau beaucoup plus grand que simplement régional, mais qui a un impact régional. Qu'est-ce que ça veut dire si on est dans la logique de l'économie circulaire pour plein d'autres petites entreprises? Globalement, là, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, on parle du fait qu'il y a à peu près 3000 entreprises sur le territoire de la MRC Pierre-de-Sorel, Sorel-Tracy, puis les municipalités environnantes. C'est quand même un bassin d'entreprises important. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres entreprises? Est-ce qu'il y a de la place pour eux dans cette logique d'économie circulaire?
Lorsque la grande entreprise a des critères de sélection d'être encore plus de maximiser, ça veut dire les chaînes courtes. Plus ils prennent des fournisseurs plus près d'eux et plus ils maximisent. Alors, donc, de voir une entreprise comme Rio Tinto être en mode innovation et de donner le signal que je suis là pour rester. Et ça, c'est différent pour nous parce que moi, depuis que je suis dans la région, on disait toujours, on sait quand Rio Tinto va fermer, mais on ne sait pas quand. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On vient mettre les spots pour dire, lorsque tu te transformes, lorsque tu maximises, là, ça veut dire, donc, ça attire du monde. Avec toutes ces annonces-là, Rio Tinto là, a vu sa pénurie de main-d'œuvre se régler là, en moins de rien. Pourquoi? Parce que les jeunes ont envie de venir, d'être utiles. On ne fait pas juste travailler pour un salaire, on vient aussi contribuer. Et ça, ça fait en sorte d'attirer la main-d'œuvre, la qualité de vie. Puis là, on avait des bonnes annonces un matin en disant que la population de Sorel-Tracy augmente. Bien, pourquoi? Parce qu'on est une zone attractive et de plus en plus, on va l'être. On a des défis, mais donc, quand tu es innovant, quand tu as une belle histoire à raconter de développement économique, mais aussi de développement durable, bien, c'est attirant, puis ça attire, fait que ça ne peut être que favorable pour l'ensemble de notre région. Autant...
Et ça va se traduire éventuellement dans d'autres entreprises qui font partie du cycle. Là.
Oui, puis nous, on vient d'avoir un nouveau programme qui s'appelle le programme Vert, et on va prendre l'orientation, et on a pris l'orientation d'économie circulaire. On est en train de faire un projet pilote auprès d'entreprises pour voir, eux aussi, est-ce qu'ils ont des revenus qui sont dans les déchets. Hein? Alors, donc, on est en train de caractériser quelques entreprises et d'annoncer des réductions importantes au niveau des gaz à effet de serre, mais aussi et surtout, bon. Et c'est pour ça qu'on est là, il faut... l'environnement, c'est payant. Puis aujourd'hui, ça, on le comprend.
Bien, je m'en allais là. Parce que ça, je trouve ça très, très intéressant parce que quand on parle des chambardements climatiques, là, on parle généralement beaucoup plus de crainte que d'autres choses. Et là, ce que je comprends, c'est que le signal donné par Rio Tinto qui dit « Nous, on va décarboner. Nous, on a des projets jusqu'à 2050. »
Absolument.
Ce qui vient évidemment nous donner des échéances extraordinaires.
Absolument.
Devant nous.
Oui.
On sait que les 10 prochaines années vont être difficiles. On sait qu'en termes de pénurie de main-d'œuvre jusqu'à 2031, ça va être difficile. Ça va être... Donc, les entreprises ont décidé d'aller vers la numérisation, vers l'automatisation.
Oui.
Mais il y a aussi cette préoccupation environnementale-là. La décarbonation avec près de 800 millions de dollars, c'est sûr que c'est un signal qui est extrêmement important. Les préoccupations environnementales, est-ce que tu, dans tes contacts quotidiens avec les entrepreneurs, avec les entreprises, est-ce que tu les vois? Parce que tu viens juste de dire, c'est maintenant rentable de se préoccuper de ces enjeux environnementaux-là.
Bien, écoute, de prendre soin. Quand la pandémie est arrivée, jamais j'aurais dit occupons-nous de notre santé pour s'occuper de notre économie. Quand est-ce qu'on a dit ça? Hein, avant, c'était l'économie comme fondamentaux. Aujourd'hui, c'est occupons-nous de nos changements climatiques si on veut s'occuper de l'économie. Occupons-nous de notre santé parce que tout est arrêté. Fait que là, le spotlight est pas nécessairement est revenu au cœur des gens et non pas dans leur poche. Alors, donc, et ça, les entreprises, les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, ça fait partie de leurs valeurs.
Est-ce que tu as l'impression, moi, le sentiment que j'ai là, à parler avec à gauche et à droite, avec entre autres avec des entreprises, effectivement, là, ce que j'ai comme impression, c'est qu'ils ont intégré le fait qu'on devra traverser des étapes un peu difficiles au cours des prochaines années. Puis la façon de passer au travers, c'est de reconnaître les difficultés, dont, entre autres, tout ce qui touche au changement climatique.
Oui.
Est-ce que tu le sens aussi
Absolument.
De ton côté?
Oui, puis on parle plus de qualité que de quantité. Hein? Et puis là, c'est de partager. Et puis on le voit là. Présentement, il y a des entreprises qui font des études de rémunération. Puis au lieu d'envoyer tous les bénéfices aux actionnaires, ben ils décident de le partager.
Ça, c'est majeur comme changement là.
Ben oui. Pourquoi? Pour garder la qualité de main-d'œuvre. Donc, le mot qualité, bienveillant, être bien, vouloir contribuer, ça, là, ça fait partie d'une nouvelle génération. Et nos jeunes, on n'a pas à les instruire, ils nous le disent. Alors, et ça fait partie de parce qu'ils choisissent la famille, parce qu'ils choisissent leur vie, leur propre vie aussi, et
ils choisissent leur employeur aussi.
Absolument.
C'est eux qui font le choix de l'endroit où ils vont travailler, les jeunes. Donc, ils posent des gestes, ils votent avec leur choix d'employeur.
Oui, puis nos entreprises, de plus en plus, on les voit s'associer avec notre collège ou avec notre centre de formation professionnelle. Pourquoi? Pour faire de l'éducation commune. Demain matin, les classes ne se passeront pas juste au cégep, mais ils vont se passer aussi en entreprise. Donc, tout le lien, on retrouve le lien, entre guillemets, qu'on avait où l'entreprise était un lieu où on se réalisait. Bien, aujourd'hui, tout ça est en train de se réinstaller.
Qu'est-ce qu'il y a, comment je pourrais dire ça, de plus à préparer, dans le sens où on a beaucoup entendu, on a beaucoup parlé du fait que les aspects liés à la qualité de vie, le milieu culturel, les possibilités de faire du sport, du plein air, etc., c'est aussi un atout, un besoin pour les jeunes en particulier, mais pour l'ensemble de la population qui vient compléter l'évolution de l'offre de travail dans la région. Est-ce que pour toi, on doit continuer à travailler dans ce sens-là?
Absolument. On a des atouts incroyables à Sorel-Tracy. On a une nature intéressante. On a la chance d'être une petite ville, mais avoir tous les atouts d'une grande ville, la qualité de vie, et ça, c'est super attractif. Et on a toute cette vision-là dans chacun de nos milieux. Et le développement appartient pas juste à l'économique, mais appartient à tous les secteurs d'activité.
Sens-tu, oui. les organismes comme le tien, comme oui. la SADC, comme Développement économique Pierre de Sorel, on a tendance à travailler avec l'ensemble des partenaires, pas oui. simplement les partenaires économiques, mais oui. les partenaires du milieu communautaire, les partenaires oui. culturels, etc. Est-ce que tu sens que le moment est bon là, pour cette collaboration-là entre tous pour atteindre les objectifs qu'on a comme région qui reçoit la nouvelle population aussi. Là.
Oui, oui, parce que je pense que tous les acteurs, les principaux acteurs, on est embarqués dans cette grande vision-là que le développement appartient à nous tous, développement culturel, social, tout est lié. Y a rien qui fait en sorte que... Puis, au conseil d'administration, on a une belle représentation. On a tous les secteurs d'activité autour de la table, les jeunes, les syndicats, le communautaire, la grande entreprise, la petite entreprise, le tourisme, l'agroalimentaire. C'est tout un secteur aussi qui est en train de se transformer. On pourra en parler,
oui,
Denis, d'un autre moment.
C'est sûr et certain qu'on va aborder la question de l'agroalimentaire dans la région, qui est l'autre grand secteur d'avenir pour notre région, en fait de présent, mais aussi d'avenir. Sylvie Pouliot, ton enthousiasme est contagieux. Je trouve que c'est une belle façon de commencer 2023 que de regarder devant nous avec un peu d'espoir et beaucoup d'action, en fait. Ce que je comprends, c'est que on est pas assis sur nos mains actuellement dans la région, puis on peut regarder les choses devant avec enthousiasme. Merci Sylvie Pouliot de la SADC.
Merci Denis.
Leader centenaire bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Sur le rythme. CJSO.
Ici Éric Bernier, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur le rythme, votre rythme, tous les matins du lundi au vendredi de 9h à midi. Question de parcourir les plus grands succès musicaux ensemble et de mettre un peu de soleil dans votre début de journée. C'est un rendez-vous.
Salut, c'est Alex. Content de vous retrouver en semaine de 13h à 15h30 du lundi au vendredi à CJSO avec des sujets qui vous tiennent à cœur et on fait aussi, bien entendu, augmenter vos rythmes cardiaques, vos pulsations cardiaques avec les meilleurs rythmes musicaux.
CJSO 101.7. Développement économique Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Tête Première est une présentation de Lucier, Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête Première avec Denis Marion.
Alors, on poursuit et on poursuit un peu dans la même veine. En fait, on a abordé avec Sylvie Pouliot ce qui accompagne les efforts qui sont faits en développement économique et on a parlé de qualité de vie. J'ai avec moi Audrey Comtois, qui est la coordonnatrice à la gestion des milieux naturels à la MRC de Pierre de Sorel. Bonjour Audrey. Merci.
Bonjour.
Merci d'être là. On va parler du travail que vous êtes en train de faire pour un plan d'aménagement, un plan régional des milieux naturels qui est prévu pour juin 2023. La question des milieux naturels a beaucoup préoccupé au cours des derniers mois, en particulier, on l'a vu pendant les deux campagnes municipales en 21 puis en 22. C'est des éléments qui ont été abordés là, tout au long de la campagne municipale à Sorel-Tracy. On va essayer de comprendre un peu ce que vous cherchez à faire, ce que vous visez, puis pourquoi vous le faites. On aura l'occasion dans les prochains mois, une fois que le travail aura été réalisé, de voir ce que vous souhaiterez proposer. On n'est pas rendu là à ce moment-ci. Mais pourquoi vous vous préoccupez? Puis peut-être, Audrey, dans un premier temps, c'est quoi un milieu naturel?
Alors, c'est des milieux qui sont peu influencés par l'activité humaine. Où les processus écologiques se maintiennent et la biodiversité sur des sites. Alors, c'est des endroits, par exemple, on peut penser aux boisés, aux prairies naturelles, les friches, et puis aux milieux humides et à nos cours d'eau.
Puis, quand on parle des prairies naturelles, on veut dire quoi?
En fait, c'est des milieux naturels. C'est souvent, par exemple, des sites à l'abandon suite à des développements ou suite au retrait là, de la culture ou les pâturages, les anciens pâturages. Alors, c'est des sites où il n'y a pas de couvert forestier, donc une végétation basse, okay. mais qui ont une grande, grande importance là, pour certaines espèces qui
pour
sont
la
en
biodiversité.
Fort déclin. Oui, tout à fait.
Là, on parle autant d'espaces, de milieux naturels en zone urbaine. On l'a vu avec Sorel-Tracy, il y avait cette préoccupation-là. Mais j'imagine que comme 90 % du territoire de la MRC est en zone agricole ou autour de l'agriculture, on parle aussi de ces espaces-là.
En effet, là, oui, la grande majorité des milieux naturels sont en zone agricole et puis sont protégés, là, entre autres, par le règlement de contrôle intérimaire sur l'abattage d'arbres. Alors, c'est ce qu'on vient un peu encadrer aussi là, par le plan régional.
Il y a plusieurs actions qui ont été entreprises par la MRC à travers les années. Maintenant, pourquoi maintenant un plan d'aménagement des milieux naturels, Audrey? Pourquoi on est là aujourd'hui?
En fait, ça date de 2017 avec une nouvelle loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques qui vient demander à toutes les MRC du Québec de déposer des plans régionaux des milieux humides et hydriques au ministère de l'Environnement. C'est vraiment une obligation,
c'est une obligation
légale. Oui, tout à fait. Et puis, c'était une obligation de le faire pour les milieux humides et pour les milieux hydriques. Là, on parle de cours d'eau et de la zone inondable. Et puis,
donc, la baie de la Vallière, par exemple, toute la zone de la baie de la Vallière, si je veux, ou tout ce qui
comme
touche
exemple,
à la rivière,
des marais. Oui, c'est ça. Alors, au début, ça visait seulement que ça, mais le ministère de l'Environnement nous suggérait fortement d'y intégrer également les forêts et les friches pour faire vraiment un plan plus complet qui va tenir compte là, vraiment d'un besoin de diversité, d'un besoin de connectivité entre ces habitats-là pour permettre le maintien là, vraiment de la biodiversité puis de nos services écologiques.
Ce que je comprends aussi, c'est que c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit au MRC, vous devez proposer un plan. Mais c'est aussi parce que, quelque part, la population dit, écoutez, il faudrait qu'on s'en préoccupe de ces aspects-là, de la biodiversité, de la protection des milieux naturels. Les gouvernements posent rarement des gestes comme ça, qui sortent de nulle part. Là. Il y a un lien avec l'intérêt qu'ont les gens sur ces questions-là. Là.
En effet, oui, ça préoccupe beaucoup les gens. Quand on pense au changement climatique, par exemple, les milieux naturels, là, c'est reconnu que c'est l'infrastructure, des infrastructures vertes qui permettent vraiment rapidement à la fois de lutter contre les changements climatiques là, en séquestrant les gaz à effet de serre, mais aussi là, de s'adapter quand on pense, par exemple, à un milieu humide qui joue le rôle d'une éponge et qui va venir, par exemple, lors des précipitations extrêmes ou lors des crues vraiment hors de l'ordinaire.
Ouais.
Oui, ils vont venir modérer là, ces impacts-là. On pense aussi aux îlots de chaleur. Quand on pense aux changements climatiques qui sont prévus pour notre région, c'est des vagues de chaleur qui vont être beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus longues et intenses à chaque été. Alors, pour s'adapter à ces changements-là, bien, si on a plus de verdissement, plus de secteurs boisés, entre autres en milieu urbain, ça va être des solutions vraiment économiques et qui rendent rapidement les services voulus.
Excellent. T'as nommé tout à l'heure, Audrey, la question de la connectivité. On avait abordé déjà cette question-là, par exemple, puis je veux juste voir si je suis dans le bon sujet, là. Mais par exemple, les chevreuils qui passent d'une zone à l'autre, à un moment donné, si on a coupé les espaces de boisés, on limite la capacité des chevreuils à se promener d'un endroit à l'autre. Est-ce que c'est de ça dont on parle?
C'est
par exemple, les chevreuils, il y a d'autres animaux, bien sûr. Là.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est qu'on limite le besoin de ces espèces-là parce que, par exemple, ils ont besoin de différents habitats pour la période d'hiver, d'été. Alors, ils ont besoin de migrer à courte ou longue distance. Et puis, c'est aussi des échanges de population. Alors, c'est vraiment vital si on veut un territoire où la diversité se maintient à long terme. On ne peut pas juste penser à des petits airs isolés, conservés. Il faut vraiment penser à la communication. Et puis, on a vraiment, à ce niveau-là, là, la Réserve mondiale de la biosphère qui est sur notre territoire. Alors, c'est là où on a un grand enjeu, où on doit maintenir la connectivité, entre autres, par exemple, avec la Réserve du Mont-Saint-Hilaire.
Ah, donc, quand même assez loin, là. Donc, on, oui. Nous, on fait partie d'une chaîne là-dedans, là. C'est ce que je comprends, là.
En plein ça, on a des axes de connectivité entre ces différents grands groupes-là, grands aires protégées là, et grands milieux naturels. Et puis, c'est vraiment là où on vient analyser qu'est-ce qu'on a besoin dans ces corridors de connectivité-là, qu'est-ce qu'on a besoin comme structure, comme largeur pour permettre vraiment les échanges entre les différentes espèces.
Est-ce que ça veut dire éventuellement qu'on va se retrouver avec d'abord une meilleure qualité pour les espèces en question, mais peut-être aussi de nouvelles espèces qui actuellement n'ont pas accès à notre territoire et qui pourraient y accéder?
En effet, surtout avec les changements climatiques, on s'attend à ce qu'il y ait des espèces du sud qui migrent tranquillement, puis que nos espèces veuillent migrer, elles, vers le nord pour suivre vraiment leurs besoins, oui, en température, en précipitation, qui vont être modulées. Alors, c'est là où il faut les aider, il faut leur donner un coup de pouce, il faut qu'il y ait des milieux qui sont connectés.
Bien là, tu m'amènes une question, parce que si chaque MRC doit déposer un plan, est-ce que vous vous parlez entre MRC? Nous, on touche à 3 ou 4 MRC là, autour de nous, Marguerite-Diouville, les Mascoutins, du côté du centre du Québec avec Nicolette... Nicolette, oui. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait avec eux?
En effet, ça a été déjà réfléchi au moment là, des obligations légales. On doit consulter les MRC voisines, même toutes les MRC qui partagent un même bassin versant. Bassin versant qui est vraiment, par exemple... le territoire qui va se jeter vers la Yamaska, vers la Richelieu. Alors, c'est vraiment un immense territoire qui va jusqu'aux États-Unis. Alors, on doit s'assurer que ce qu'on fait comme démarche de conservation, bien, ça fait du sens avec ce qui est fait à côté.
Là, mais si on prend juste le bassin versant de la rivière Yamaska, parce que c'est probablement le plus important de nos deux bassins, là, le bassin de la rivière Yamaska est encore plus imposant en termes de territoire que le bassin versant de... Autrement dit, là, le bassin versant, c'est l'ensemble... des territoires d'où l'eau part pour se rendre à la rivière Yamaska. Là. Je dis ça comme ça, c'est correct?
Oui, exactement.
Bon. Mais donc, l'eau qui coule à Mascouville, à Saint-Aimé, à Yamaska, à Saint-David, là, dans la rivière Yamaska jusqu'à Sainte-Anne, cette eau-là nous vient de vraiment de très, 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 très loin, dans les Appalaches. Puis là, je comprends peut-être même des États-Unis. Ça donne une comment je pourrais dire ça, une perspective du travail dans laquelle vous êtes engagé, qui est quand même assez impressionnante, là.
Oui, bien, on a l'aide, par exemple, là, pour les bassins versants, là, des organismes de bassins versants de la Yamaska et de la Richelieu, qui vraiment nous aident parce qu'ils sont là, eux, pour la concertation entre les différents représentants régionaux sur leur territoire. Alors vraiment, eux, ils nous aident dans cette concertation. Et puis sinon, ben, on a eu des exercices qui ont été faits plus avec les MRC voisines là, sur ce qui prévoit comme mesure de conservation.
Je trouve ça intéressant. On a parlé d'économie tout à l'heure. Donc, on a parlé évidemment de façon générale, de très large, de ce que veut dire l'économie. On a parlé des gens, on a parlé des entreprises. Là, on parle du territoire. Je pense que ça donne une bonne idée du nombre de préoccupations que nous avons. On travaille à plusieurs niveaux en même temps. Et là, vous travaillez sur le territoire. C'est quand même intéressant de voir que le territoire lui-même, il est aussi important que pour la population, finalement. Là.
Aussi riche, en fait. T'sais, c'est vraiment une grande richesse qu'on a un peu négligée par le passé parce qu'on l'intégrait un peu plus à l'opportunité qu'on avait de conserver certains milieux naturels qui n'étaient pas développés. Maintenant, par les plans régionaux, ce que nous demande le ministère de l'Environnement, c'est d'aller en premier lieu cibler ces quels milieux naturels qui sont nécessaires à conserver et puis d'après orienter notre développement en tenant compte. Alors, ce n'est plus à la pièce qu'on fait de la conservation.
Évidemment, la MRC, c'est la réunion de 12 municipalités, dont évidemment Sorel-Tracy, la Ville-Centre, mais ça va de Saint-Gérard, Magella, Saint-Roch, Saint-Ours, Saint-Anne, etc. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour elles, pour les municipalités, une fois que la MRC aura adopté un plan comme celui-là? Est-ce qu'il y aura des gestes à poser au palier municipal local?
en fait, de prime abord dans l'élaboration sont vraiment super importantes, les municipalités, parce que moi, je dois tenir compte des besoins en développement. Je dois anticiper les pertes, les endroits où on pense avoir des pertes de milieux naturels par le développement. Et à ce niveau-là, c'est beaucoup plus les municipalités qui sont à même d'orienter les endroits où ils vont poursuivre leur développement. Et après ça, pour la suite, bien, c'est sûr qu'on a besoin d'identifier des sites à restaurer, des sites de création de nouveaux milieux naturels. Ensuite, il y a des demandes, beaucoup du public, qui étaient d'avoir de l'accès public aux milieux naturels. Oui. Alors, pour toutes ces...
Parce qu'on y vit dans les milieux naturels. On n'est pas des gens qui n'y vivons pas. On veut y vivre. On veut en profiter des milieux naturels dans la région, évidemment.
En effet, puis c'est essentiel de rester connecté à ces milieux-là là, pour les apprécier et vouloir
les
conserver.
C'est une belle perspective pour les prochaines années de penser que c'est important, les milieux dans lesquels on vit. Donc, c'est pas surprenant que ça a été un enjeu dans les élections aussi au cours des derniers mois. Audrey Comtois de la MRC Pierre de Sorel, merci énormément pour ces réponses et ces précisions et le travail qui est engagé actuellement. On aura l'occasion de s'en reparler, j'en suis convaincu. Je termine ici cette émission, la première émission de Tête Première. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente semaine, belle fin de semaine, et on se retrouve la semaine prochaine sur l'heure du midi du jeudi.